L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM en direct à midi, rediffusé à 18h. Aujourd'hui, on retrouve le Centre départemental d'archéologie version Moyen-Âge, car vous savez que toutes les périodes sont couvertes au centre. En ce qui concerne le Finistère médiéval, nous avons deux gros points d'intérêt, l'ancienne abbaye de Landévennec et le château de Roquemorvan à La Roche-Maurice. Ce sont les deux chantiers suivis de près par Ronan Pérennec, notre invité du jour. Et aujourd'hui, donc, ces châteaux, dont la vie, je vous le rappelle, s'étend en gros du XIe au XVe siècle. Roquemorvan, c'est l'un de nos rares châteaux forts du Finistère, encore un peu debout sur son éperon rocheux. Et l'éperon, c'est d'ailleurs un élément qui complique les fouilles. Ces fouilles sont menées par le département du Finistère depuis l'an 2000. On parle de fouilles programmées, ça se passe en été. Cet été, il y a encore eu des nouveautés. Bonjour Ronan Pérennec.
Bonjour.
Alors, le secteur des fouilles du château de cet été, il voilà, faut nous rappeler un peu comment ça se découpe peut-être et puis comment vous travaillez. Ouais.
C'est un château à plein de parties différentes. Il y a plusieurs enceintes compartimentées. Donc l'enceinte haute, l'enceinte seigneuriale, celle du donjon, avait été fouillée dans les années 2000 par Jocelyn Martineau. Et là, je fouille, moi, une enceinte un peu plus grande, l'enceinte, donc on va appeler l'enceinte basse par facilité, qui se trouve un petit peu en contrebas sur des reliefs un peu secondaires. Et qui...
Voilà. Plutôt plus ancienne, plus récente. Enfin, est-ce qu'il y a des différences d'époque selon les enceintes, j'imagine?
Non, on a pu montrer, justement, c'est l'intérêt, on a pu montrer que, puisqu'on a des structures bâties dès le XIe siècle, donc en pierre, on avait déjà un château en pierre dès le début, et on a pu montrer que le château, il a déjà l'emprise qu'on lui connaît dès le XIe siècle.
En fait. Oui, la même surface.
Ouais. Ouais.
Donc là, le secteur fouillé est plus bas, c'est ça? Enfin, il est où? Comment il s'oriente par rapport au reste?
On est plus bas, mais on reste quand même assez en hauteur. Hein. On est avec ouais, avec pas mal de mètres, on peut faire des chutes assez facilement.
Ouais, c'est quelle surface en gros?
Alors j'ai jamais calculé la surface de fouille, parce que on a des surfaces de fouilles relativement importantes sur le papier, mais avec les pentes et les reliefs, en fait, on peut pas. Ça se rétrécit très 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 rapidement, en fait. Donc cette année, c'était une relativement petite surface pour un chantier programmé. Si on met plus de monde, on perd des gens, quoi.
C'est ça.
C'est un peu ça, quoi.
Il y a quand même des grosses questions de sécurité. On va revenir dessus. Et alors, pourquoi avoir choisi cette partie-là à fouiller?
C'est parce qu'elle était absolument pas documentée. La plupart des gens savaient même pas qu'on avait un château, en fait, dans cette, enfin, qu'on avait le château dans cette partie-là. Du coup, il y a eu énormément de dégâts avec des, enfin, énormément. Il y a eu des dégâts avec des tranchées électriques, avec des. Parce que des installations de projecteurs pour éclairer le château, des choses comme ça. Parce que les gens n'avaient même pas idée que c'était qu'ils étaient dans
que c'était encore que
le tas de terre qui était là, c'était aussi le site, en fait. Hein. Et puis parce que le département avait une volonté de mettre en valeur, c'est important pour les publics finistériens notamment, mais pas que, mais notamment de mettre en valeur l'intégralité du château pour qu'il y ait un accès gratuit, une valorisation et puis des explications aussi qui vont avec.
Mmh. Et donc, quand est-ce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à cet endroit-là?
Alors, quand on regardait bien, on le savait en fait, hein, mais on voyait quelques pans de murailles.
Ah oui, quand même.
Quand même,
ouais.
Hein, quelques pans de murs. Mais dans l'ensemble, la plupart des visiteurs ne se rendaient pas compte qu'il y avait un grand tas de terre et puis c'est tout, quoi. Une grande butte de terre, quoi.
Et cette partie-là, elle est fouillée depuis combien de temps, en fait?
Et donc, on a commencé donc la fouille depuis 2014. Et en 2013, il y avait eu un très, très léger, ça n'a pas duré longtemps, j'avais commencé à enlever les remblais de démolition, les stériles, ce qu'on appelle en fait les remblais de démolition du XXe siècle. En fait. Quand le château est tombé, les restes des ruines se sont abattus dans la partie la plus à l'est, en fait, de cette enceinte. Et on avait très vite arrêté pour des raisons de sécurité, en fait.
Mm-hmm. Ouais,
pour éviter
ça.
De faire tomber des pierres en contrebas sur les chemins en bas.
Bon, alors qu'est-ce que vous avez dégagé cette année, ou depuis même, on peut revenir depuis les années précédentes, sur cette partie-là? Ah, est-il une cuisine?
On a tout Ouais, toute cette enceinte là, on a déjà son plan complet et toute son évolution qui est assez complexe en fait depuis le XIe siècle jusqu'à la fin du château. Donc
elle était là dès le début cette enceinte là.
Ouais, elle est là dès le début, mais par contre le plan a un peu changé aussi. Il y a eu des changements d'aménagement. Et puis comme elle est donc à partir de la fin du Moyen Âge, on a les canons qui entrent en ligne de compte, qui rentraient pas en ligne.
Enfin, oui, au XIe siècle, il n'y avait pas encore de canons. Ouais.
Non, donc l'enceinte haute en fait, celle du donjon qui se trouve tout en hauteur, qui a été le dernier verrou, qui a été conçu comme ça avec des chicanes, avec tout un tas de choses pour ralentir les gens, pour empêcher que. Donc au XIe siècle, et puis enfin au XIIe siècle et au siècle suivant, enfin, parce qu'au XIe siècle, on n'en sait rien, mais à la fin du Moyen-Âge, ça n'est plus le centre du château, en fait. L'artillerie, elle se développe en bas, parce qu'elle est en haut, elle ne sert pas à grand-chose, donc c'est la partie basse qui va devenir la plus importante. Et donc on va avoir un abandon progressif de la partie haute. À partir notamment au début du XVIe, ça n'est plus important, la partie haute. Donc on a donc Jocelyn Martineau avait mis en évidence des meules. En fait, on a une activité meunière. Donc sans doute des prisonniers qui. Parce qu'il y a quand même beaucoup de meules donc pour envisager des moulins. Donc on a sans doute des prisonniers qui sont. Parce que le château est asservi de prison aussi.
Ah oui. Oui, c'est ça, il y a eu plein d'histoires en plus, c'est
quand
vrai.
Quand on peut empêcher les gens d'entrer, on peut les empêcher de sortir. Ouais. Hein. Et donc, on a sans doute des prisonniers qui sont utilisés comme force animale, en fait, pour moudre du grain.
Dans la partie que vous fouillez ou dans la partie qui a été fouillée avant ?
Dans la partie qui avait été fouillée avant. Et par contre, dans la partie où on fouille, nous, on a tout un tas d'aménagements qui laissent supposer que les fonctions seigneuriales se sont déplacées dans cette partie-là, en même temps que les fonctions... défensif, puisqu'on a une tour d'artillerie, on a tout un tas d'éléments, un boulevard d'artillerie, et tout un tas d'éléments qui viennent pour assurer l'imprenabilité du château.
La défense. Ouais. Et donc, elle a d'abord cette partie, si on reprend chronologiquement, elle a d'abord été quoi ? Enfin, quelles sont ces différentes vies, si vous en avez une idée
Pour l'enceinte basse.
Oui, l'enceinte basse, oui.
Ah, pour le 11e, on en connaît très peu de choses. Hein. J'ai trois murs et un fragment de sol, donc ça va vite être expédié. Hein. On sait juste que, puisque dans l'enceinte haute, on a aussi des sols qui sont attestés de cette période, on sait juste que le château, il a la même ampleur. Mm-hmm. Parce qu'on retrouve aux deux extrémités, en fait, les traces d'occupation.
La même époque. Quoi.
Voilà. Mm-hmm. Simplement. Les structures qui ont été construites au fur et à mesure sur l'enceinte haute ont occulté en fait les structures les plus anciennes. Ça s'est venu se construire par-dessus. Alors que dans l'enceinte basse, on a eu des agrandissements successifs du château. Et en même temps, on a des reliefs pentus qui ont été gommés au fil du temps avec des remblaiements et qui font qu'on a des structures 11e qui ont été piégées. Dans des creux à plusieurs mètres de profondeur par rapport au sol sur lequel maintenant les visiteurs peuvent circuler. Donc c'est plus visible.
C'est mieux conservé.
Ça n'est plus visible. C'est conservé parce que en fait il a fallu remblayer donc ça les a piégés en fait entre guillemets et parce que les murs à partir du XIIIe siècle les murs se sont décalés. On agrandit le château et donc on ne construit pas sur les murs du 11e, on construit à côté.
Ah ouais. Donc au 11e, vous ne savez pas trop. Après, au 12e, 13e, qu'est-ce que vous avez, par exemple ?
Alors au 12e, on a toujours un château qui se... Enfin, là, du coup, les structures, c'est toujours construit sur le haut du rocher, sur le plan du 11e, quasiment, pour les parties qu'on a. Et avec quelque chose de assez en retrait des aplombs rocheux. Avec les tours qui vont jusqu'au niveau de l'aplomb rocheux, les murailles qui sont un peu rentrées. Alors qu'à partir du XIIIe siècle, on décide de changer tout ça pour gagner de la place sur le château. Et toutes les murailles, tous les remparts qui viennent se mettre au niveau des aplombs rocheux. En fait.
Ah oui.
Et dans le même temps, les constructeurs ont décidé d'optimiser un petit peu, de rationaliser, on va dire, au lieu d'avoir quelque chose qui s'adapte un petit peu à la forme du rocher, on va avoir un plan un peu géométrique. Quoi.
Donc on a grandi, et qu'est-ce qu'on y fait au 13e, en gros, dans cette partie ?
Et on y vit, en fait. Hein,
oui.
On y vit, après, c'est toujours difficile d'avoir Parce que c'est un château où les parties hautes ont beaucoup disparu, en fait. Moi, j'ai des parties... ont disparu. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux différents. L'enceinte basse, elle a deux points hauts et un point central qui est beaucoup plus bas. Donc, elle n'a pas un relief homogène.
Ah, d'accord.
Donc, on peut avoir des bâtiments qui ont un rez-de-chaussée, qui se trouve en étage par rapport à la partie basse. Il y a le même état rez-de-chaussée. Donc, c'est un peu comme en montagne, en fait.
Ah oui. Et on parle d'une cuisine, alors ça serait au 13e, la cuisine, enfin, celle que vous avez fouillée?
Pour l'instant, on n'est pas remonté jusque-là. On a plusieurs cuisines, en fait, dans cette enceinte. On a, aux deux extrémités, en fait, on a une cuisine. En fait, on a une partie qui a été fouillée à partir de 2014, où on a une cheminée, enfin, une pièce avec une cheminée, un évier, enfin, tout un tas d'aménagements liés à la cuisine. Mais ces aménagements-là sont dans des bâtiments dans des murs construits au XIVe siècle. Donc, sur l'emplacement de bâtiments XIIIe, mais on n'a pas l'équivalent pour le XIIIe siècle. On n'est pas renseigné. Et de l'autre côté, sous le donjon, dans la partie où on fouille actuellement, on a deux pièces, en fait, deux salles différentes qui ont des cheminées, enfin, une cheminée murale, donc pour le XIVe aussi, et avec un accès à une partie basse, donc qui se trouve dans le rez-de-chaussée de la partie inférieure. Donc on a un accès à une cave, soit une citerne. Donc on a, dans les deux cas, quelque chose qui est lié aussi à la cuisine.
Ah oui, donc ils ont réussi à faire une cave quand même à cet endroit-là. Oui.
Ça leur a pas été compliqué parce que le rempart nord n'a pas été construit sur l'aplomb rocheux, en fait.
Ah oui,
à cet endroit-là, ils ont décalé.
Et
l'espace qu'ils leur donnent, qui entre la paroi de quartzite et le rempart, ça ménage, en fait, de quoi faire une pièce, en fait, qui n'a pas d'autre accès que l'étage, en fait. On ne peut rentrer que par l'étage.
Mais vous savez pas si c'était une citerne ou une cave, ou les deux? Vous pouvez pas le savoir encore?
Non, parce que on penchait pour une cave, évidemment, hein, parce que ça... Mais les aménagements les plus, à partir du XVIe siècle, on sait qu'on a une circulation d'eau pour alimenter la citerne. Donc c'est comme ça à partir du XVIe siècle, du début du XVIe siècle, fin XVe, début XVIe. Et ce qu'on ne sait pas encore, parce que la fouille n'est pas encore assez avancée, c'est si on a les mêmes dispositifs pour le Moyen-Âge. En fait.
Mmh, d'accord. Ça se faisait, des circulations d'eau au Moyen-Âge?
Oui, en fait,
dans d'autres châteaux, je veux dire.
Il n'y a pas d'eau sur le rocher.
Ouais.
Et donc, il fallait qu'ils récupèrent les eaux de toiture pour les amener dans une citerne, en fait. Et donc, on a, pour le XVIe siècle, un aménagement qui récupère un genre de petite égoutte de toiture qui récupère, en fait, les eaux des toits, quoi, pour la guider vers une citerne. Et pour les parties les plus anciennes, on est en train de fouiller, on n'a pas encore les éléments. Quoi.
Mais il y en avait forcément une. Oui.
Il y a sans doute une, oui.
Ouais. Ils ne montaient pas des tonneaux à chaque fois.
Simplement, pour l'instant, on appréhende mal la circulation, en fait.
Donc il y a ce que vous ne savez pas. Et qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous avez vraiment trouvé cette année, notamment?
Donc on a une cheminée avec une cheminée murale, là, dans une des salles. Et dans celle d'à côté, on a une autre cheminée qui, elle, est un foyer central, en fait, en plein milieu de la pièce. Et donc, on a avec tout un tas de foyers qui se sont succédés, avec énormément de foyers. Là.
Ah,
voilà.
Oui.
Donc, on a une cuisine qui a fonctionné pas mal de temps, là, entre ces deux pièces. Là. Et donc, l'hypothèse, c'est qu'on ait une salle, un peu d'apparat, une salle noble, en fait, entre les deux, dans les élévations qui, du coup, ont disparu. C'est pour ça que ça m'est difficile de donner des certitudes, ça sera toujours des hypothèses. Mais pour le début du XVIe siècle, en tout cas, on a un fragment de colonne, un tambour de colonne en schiste, et le seul moment connu à la Roche-Maurice où on utilise le schiste comme pierre de taille, c'est la fin du XVe, début XVIe siècle, quand on reconstruit le château. Et qu'on construit la tour d'artillerie, le boulevard d'artillerie. Et donc, on aurait un traitement assez particulier des élévations qui ont disparu, avec au moins une salle avec des colonnes, en fait.
Il y aurait quand même une salle d'apparat en bas, même si on fait des défenses aussi dans la partie basse.
En fait, ça serait dans l'étage, dans l'étage de la partie de l'enceinte basse, en fait. Quoi. Dans...
D'accord. Ah oui, oui. Ok, pas au rez-de-chaussée.
Pas au rez-de-chaussée.
Au rez-de-chaussée, on met les défenses.
On a en fait au rez-de-chaussée des pièces qui sont totalement donc citernes, caves, celliers, enfin des pièces qui sont complètement fonctionnelles, quoi. Mmh. Et à l'étage, on a les cuisines et sans doute les salles. La salle haute, avec un grand escalier monumental aussi qui la dessert. Donc, c'est aussi un des
ça, vous
éléments.
En avez trouvé des traces concrètes.
Oui, oui,
concrètes,
on l'a,
l'escalier.
Cet escalier. Oui.
D'accord.
Les gens peuvent d'ailleurs circuler dessus, puisqu'il a été restauré. Et puis, à l'étage d'après, on doit encore avoir les logements. Et... Mm-hmm. Et ça, on n'a pas.
Ouais. Et vous avez trouvé des objets lors de cette fouille-là, cet été
Oui, alors comme toujours à la Roche-Maurice, on retrouve pas mal de projectiles. Parce que, voilà.
Ah, il y a quand même eu des batailles alors.
Donc des gros galets qui sont envoyés par, avec des grosses catapultes ou des plus petits galets qui ressemblent à des pierres de l'Est, en fait, hein, qui sont peut-être arrivés à Landerneau comme des pierres de l'Est, mais qui sont récupérés pour être expédié sur le château au départ avec des, on les met dans des grandes poches dans des catapultes et du coup il y a un nuage de petites pierres qui viennent battre au Moyen Âge on appelait battre les murs, en fait, pour empêcher les défenseurs de se mettre à leur poste pendant que l'attaquant progresse vers le château.
On bombarde ses propres murs pour empêcher que le.
On bombarde les murs du château qu'on attaque.
Oui, c'est l'ennemi qui
c'est
bombarde,
l'ennemi.
D'accord.
Et c'est des projectiles qui coûtent pas cher.
Mmh, oui,
et pendant qu'on les envoie, en fait, les défenseurs ne peuvent pas tirer sur les.
Voilà. Donc ça veut dire que le château s'est pris des salves de ça, des attaques.
Et des beaucoup plus gros galets qui, eux, viennent par trébuchet ou par.
Genre boulets, quoi.
Ouais, des catapultes, en fait, qui font beaucoup plus de dégâts sur les murs. Donc on en a pas mal qui ont. Donc on a des traces d'impact, en fait. Hein, donc on sait qu'ils ont même parfois éclaté. On sait que ça a rencontré les châteaux, mais par contre ils sont mis de côté parce que une fois que c'est sur le château, ça peut resservir.
Eh ben bien sûr.
Donc on les renvoie.
On ne jette rien.
Donc on trouve ce genre de choses, comme aussi des boulets de canon beaucoup plus travaillés qui eux servent pour les canons, quoi.
Et donc ces projectiles galets, ils ont été reçus par le château. On ne sait pas à quelle époque ils ont été reçus par le château ou on le sait par rapport à l'histoire.
Pour l'instant, moi j'ai des niveaux, je les ai dans des niveaux 14, 15e.
Ouais. Voilà. Mais c'était du stockage aussi bien. Ils avaient été envoyés avant et ils étaient stockés.
Oui,
depuis,
c'est stocké, ça resserre en fait. Mm-hmm. Et c'est stocké, ça sert aussi dans la construction, pour des remblais.
Ah oui, aussi,
voilà,
pas,
ça sert un peu à tout. Mais, mm-hmm. Et puis on a cette année quelques fragments de pointes de flèches ou de carreaux d'arbalète.
Donc de la guerre. Et j'ai cru lire que vous aviez trouvé une forge, non ? Enfin, ou peut-être. Enfin...
Alors, c'est vous. c'est voire possible.
Hypothèse, on est toujours dans les hypothèses.
Pour l'instant, ouais, c'est pas trop. Mais bon, évidemment, on a des niveaux charbonneux avec quelques scories, les bâtis. Donc, on n'a pas vérifié encore pour les bâtitures. J'ai fait des prélèvements, mais. En fait, on a par contre une masse de forgerons et une pince de forgerons sur place. Donc, a priori, oui, on a sans doute un niveau qui a servi à une forge avant. Alors après, c'est
à quelle époque,
c'est l'exploitation qui va les donner parce que pour l'instant, j'ai pas toutes les datations pour voir si ça a fonctionné avant la cuisine ou s'il y en a une partie qui fonctionne en même temps que la cuisine, parce qu'on a dans la pièce des niveaux différents, en fait, c'est retrouvé sur un niveau un peu plus haut que certains autres niveaux. Comme.
À quelle époque ce serait ça
Et alors là, donc sans doute au 14e, mais je peux pas être plus précis, en fait.
Et puisqu'il y a eu des cuisines à cet endroit-là, est-ce que vous, quand vous faites les fouilles, vous retrouvez aussi des arêtes de poissons, les résidus alimentaires qui seront étudiés par l'archéozoologue notamment dont on avait parlé.
Ah ouais. Alors sur les parties hautes, on en a pas mal, mais beaucoup. Enfin, c'est quand même nettoyé assez régulièrement, de la même manière qu'ils refont les foyers. On a énormément de lentilles d'argile, de cendreuses.
Le château est bien entretenu.
Pour entretenir les foyers. Par contre, toutes les parties qui sont en contrebas, elles servent de... Oui, on y jette donc la cave ou le cellier. Là, on y balance, en fait, effectivement, tout un tas d'ossements animaux, d'arêtes de poissons. Donc, on a effectivement beaucoup de données sur la... sur ce que consomment en fait les gens qui vivent dans le château. Mais aussi du coup sur sur l'économie en fait qui est autour du château. Quoi.
Et là, vous avez eu du nouveau là-dessus à ce niveau-là ou vous savez pas encore peut-être?
Alors je n'ai pas lu le détail de l'étude là de archéologique cette année. Donc on est vraiment en cours là.
C'est un peu tôt. C'est presque un peu tôt. Ouais. Ouais. Ouais.
Mais ceci dit, on a tout un tas de. Donc je l'avais dit déjà, mais
oui, bien sûr,
on a des gibiers, on a des animaux d'élevage, on a une vingtaine de poissons aussi, des espèces de poissons différents. Donc il y a pas mal de choses.
On ne mourrait pas de faim au château de la Roche-Maurice. Vous avez donc vous menez depuis plusieurs années un chantier. Alors c'est l'été, mais comme c'est un terrain particulier, on l'a vu, j'imagine que ça demande tout un processus de sécurité. Enfin, comment vous faites pour mener ces fouilles là au bord de la falaise, sur cet éperon rocheux? Qu'est-ce que vous mettez en place comme mesure de sécurité?
Alors on met on monte des échafaudages qui nous servent à la fois de zone de circulation en dehors des zones de fouille pour ne pas abîmer les niveaux sur lesquels on fouille.
Pour ne pas marcher par terre, en fait.
Ouais, et pour éviter les chutes aussi, parce que on a des échafaudages avec des barrières de sécurité. Donc ça sert à ça. Alors ça n'empêche pas forcément qu'il y ait des zones dangereuses, même avec ces échafaudages-là. Mais ça atténue énormément la dangerosité du lieu. Quoi.
Donc l'échafaudage, il est mis en début de saison, c'est ça ou...
Il est mis juste avant la fouille, parce que sinon la fouille, on ne prendrait pas le risque de faire tomber quelqu'un.
Mais on peut quand même travailler au sol.
On peut travailler, oui.
Et pour travailler au sol, vous avez quand même mis des barrières pour...
En fait,
pour y protéger les gens, je veux dire, les archéologues.
Oui, alors il y a des barrières, il y a des barrières on met des barrières autour de la benne en fait, on évacue des déblais, on garde des pierres en fait pour l'étanchéité des quand il y a une présentation en fait, il faut refaire l'étanchéité des couronnements de murs pour ne pas que ce soit le mur qui soit refait, c'est un couronnement par-dessus. Donc
ils ne prennent pas l'eau, quoi.
Enfin, oui, éviter que le mur se désagrège, en fait, se soit détruit en cours de route.
Donc vous mettez une sorte de béton, par-dessus.
Alors, ce n'est pas nous, mais en fait, nous, on garde des pierres pour que ce soit les mêmes matériaux qui soient utilisés.
D'accord.
Mais pour le reste, on a une benne qui envoie les déblais ailleurs. Et donc, là aussi, on met autour de nos stocks de pierres, des bennes et tout, des barrières pour éviter que les gens qu'il y ait des accidents.
Oui, c'est ça. Et est-ce que ça change grand-chose aussi sur les outils que vous utilisez, l'emplacement donc, vous ne pouvez pas mettre la mini-pelle, par exemple, à cet endroit-là?
Ah non, on ne peut pas utiliser... Non, on peut pas utiliser de mini-pelle, en fait. Là, dans les zones sur lesquelles on fouille actuellement, on pourrait même... Oui, on ne peut pas, en fait. C'est des zones relativement restreintes. Alors, en 2019, j'avais fait... En 2020, j'avais fait un essai... Donc ils avaient monté une mini-pelle avec un télescope là, et en fait on a très vite arrêté parce que on risquait de perdre le pelleteur en fait, quoi.
Et vous limitez
sa mini-pelle en fait.
Bah oui, tant qu'elle tombe pas de la faille. Et vous limitez le nombre de gens aussi, j'imagine. Enfin, c'est un chantier où vous pouvez pas mettre plus de tant de personnes. Parce
non,
que c'est...
alors en me comptant on est une dizaine, c'est tout. Hein.
Ouais, ce qui est pas beaucoup. Et ils sont formés spécifiquement, les archéologues, pour ce terrain-là, ou ça va?
Ça rentre, comme pour beaucoup de fouilles, en fait, ça rentre dans le cadre de la formation des étudiants qui suivent des cursus en archéologie.
Ouais.
Ceci dit, je prends de temps en temps aussi
des bénévoles.
Des bénévoles qui ne sont pas dans le cursus. Dans la mesure du possible, quand c'est possible. Pour varier un peu le groupe. En fait, quoi.
Et vous n'avez pas eu d'accident, voilà.
Non, tout se passe bien. Non,
il n'y
a jamais eu d'accident.
Alors, il nous reste juste peut-être une minute pour évoquer les valorisations futures. Alors, c'est difficile de savoir ce qui sera fait pour valoriser cette partie basse, là. Mais est-ce que, comment, à votre avis, ça pourrait être accessible aux gens sans que ça soit dangereux, justement?
Alors, il y a déjà une partie de la partie basse qui a été... consolidée, enfin cristallisée et valorisée, donc une moitié en fait, qui est accessible aux gens, où les gens peuvent y circuler. Il y a pas mal de visiteurs chaque année. Et puis la partie où nous, on est en train de fouiller, justement, c'est pour permettre cette valorisation-là. La fouille intervient avant la valorisation. Et donc on est en fin de programme, en fait.
Oui, c'est ça. Et encore l'année prochaine, c'est ça, non ?
L'année prochaine, et puis la partie haute sera dégagée pour la valorisation.
Donc on ne sait pas encore ce qui sera fait pour que les gens puissent voir cette partie-là.
Non, parce que ça dépend pas que de moi. Il y a beaucoup d'intervenants, en fait, d'architectes, les monuments historiques, les APF, les CRA.
Bâtiments de France, tout
oui,
ça.
Oui, il y a beaucoup de monde. Et puis, il y a des normes, enfin, il y a des normes techniques, enfin, des normes de sécurité, il y a pas mal après, l'esthétique aussi, hein, qui peut...
Que ce soit beau.
Ouais.
Bon. Eh bien, affaire à suivre. Les gens, en attendant, peuvent toujours accéder au château. Non, il est ouvert toute l'année, le château
en
circulation.
Oui, il y a une partie qui est ouverte, qui est accessible, est ouverte toute l'année. Ouais.
Bon.
Il y a une maison du patrimoine qui est ouverte, je crois, le week-end actuellement, hors saison.
Eh bien, merci Ronan Perrenet, qu'on retrouvera sans doute très prochainement sur Radio Évasion Transistor, le centre départemental d'archéologie. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.